Vous êtes sur RTL.
La situation.
Alors, c'est le sens de la concertation que nous menons avec les organisations de salariés, également les organisations patronales. C'est le 13 janvier. Mmh. Et bien entendu, les droits seront prolongés parce que les droits sont maintenus jusqu'au 31 août prochain. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure que la crise se prolonge, il faut trouver 507 heures dans les deux ans maintenant, grâce aux dispositions qui ont été prises avant la fin du dernier contrat. Ça coûte 1 milliard d'euros, mais nous abonderons ce fonds. Nous n'abandonnons pas les intermittents du spectacle.
On ne sait pas encore de combien de temps ça sera prolongé.
C'est quelque chose de structurant dans notre politique culturelle.
Donc prolonger autant qu'il faudra.
Autant qu'il faudra.
Question au téléphone d'Alain qui nous appelle de Dallenheim. Bonsoir Alain, la ministre de la Culture vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir,
donc,
monsieur.
Je suis Alain, à Dallenheim. Meilleurs vœux déjà pour cette nouvelle année.
Meilleurs vœux à vous. Vous êtes directeur d'école.
Merci également. Il y a Madame Bachelot aussi.
Merci. Meilleurs vœux à vous.
Merci beaucoup. Alors, j'avais une question. En fait, je suis directeur donc d'une école primaire et nous avons une sortie de prévue à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg fin janvier. Voilà. Et c'était pour savoir si, compte tenu, de ce qui avait été décidé au 15 décembre pour les jeunes et les autorisations en intérieur de nouveau pour faire du sport, etc. C'était pour savoir si les spectacles seront à nouveau autorisés pour les primaires.
Pour les scolaires.
Alors, c'est précisément un sujet sur lequel nous réfléchissons et dans les premières dispositions, dans ce calendrier glissant, qui évidemment, je le répète, est très conditionné à l'évolution de la crise sanitaire, la réouverture des musées, l'éducation artistique et culturelle sont vraiment des priorités très importantes, parce que si nous perdons les jeunes, nous perdons les futurs spectateurs de demain, ceux qui connaîtront la culture. Donc, je ne peux pas vous répondre sur la sortie aujourd'hui, sur la sortie que vous avez projetée à l'Orchestre Philharmonique. Mais je peux vous dire que c'est une de nos toutes premières priorités. Mmh. Mais je ne prends pas d'engagement avec vous, cher monsieur Alain.
Donc, c'est pas oui, mais c'est pas non. C'est pas mort encore, on va dire.
Pardon, mais je préfère être honnête
avec... Mais c'est ce qu'on attend de vous, madame la ministre. Robert 1950 sur Facebook, à partir de quel stade de la campagne vaccinale on pourra rouvrir les lieux de culture? Est-ce que c'est lié?
Non, ce n'est pas lié. Ce qui est une condition, c'est la stabilisation de la pandémie, puisque nous savons bien que nous aurons aussi du temps pour constater l'effet de la vaccination sur les recontaminations. Je ne veux pas marcher sur les brisées de Olivier Véran. Oui, Thomas Soto, vous me faites dévier de l'arrêt que je me suis
dit. Pas du tout. C'est votre nature dans cette mise de la santé qui reprend le dessus.
De constater que le vaccin procure bien une immunité de longue durée, etc. Nous avons besoin d'éléments que scientifiquement nous n'avons pas encore sur ces questions. Donc nous, la question de la réouverture est vraiment liée à un stade stabilisé de la pandémie à un niveau faible.
Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'un passeport vaccinal qui permettrait aux personnes vaccinées d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller au concert? Ça existe déjà en Israël.
Éthiquement, je n'adhère absolument pas à cette disposition. D'abord parce que le fait que la vaccination chez nous, et je le défends, n'est pas une vaccination obligatoire, fait qu'on priverait d'accès à la culture des gens qui... Et c'est leur liberté, et c'est leur choix, c'est ce qui fait la dignité de notre société. On les priverait de culture, on conditionnerait l'accès aux lieux culturels à une démarche sanitaire. Tout ce qui en moi est pour la liberté, pour la culture, pour cette rencontre extraordinaire entre l'art, les artistes et les gens, tout ça se révolte.
Vous êtes contre. Question de Charlotte. En 2009, lors de l'épidémie de H1N1, vous étiez fait vacciner publiquement. Est-ce que vous demandez à Jean Castex de faire la même chose, de donner l'exemple?
J'ai beaucoup réfléchi à cela, parce que quand je m'étais fait vacciner en 2009, tout ça, je pense, n'avait pas eu un effet un effet probant et même ça vous peut-être ça avait été contre-productif dans la mesure où certains y avaient vu une opération de pure communication. Même certains avaient pensé que je m'étais pas fait vacciner avec un vrai vaccin.
Produit, voilà.
Voilà. Donc est-ce que vraiment l'effet, comment dirais-je, pédagogique de la vaccination des personnalités est utile?
Non, vous n'êtes plus tellement pour.
Non.
D'accord. Vous êtes aussi une citoyenne, une femme, pardon, je vais donner votre âge de 74 ans, Roselyne Bachelot. Est-ce que vous aimeriez, vous, pouvoir être vaccinée tout de suite contre le Covid?
Je serai vaccinée à mon tour, mais dès que ce sera mon tour, je me précipiterai.
Vous le prendrez, oui. Pourquoi les Français ont l'impression que ça navigue à vue? Qu'est-ce qui cloche dans cette campagne de vaccination?
Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui cloche. Je sais que c'est extrêmement difficile de mener une campagne de vaccination. Mmh. C'est une opération vraiment de logistique avant d'être une opération médicale. C'est aussi une question d'adhésion de l'opinion publique, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Enfin, c'est pas encore ce qui pourrait achoper. Moi, je crois qu'on constatera le résultat de la campagne de vaccination à la fin du mois de janvier. Mmh.
Et Olivier Véran, il vous a consulté, il vous a dit comment tu t'étais organisé, toi, sur quoi tu avais buté lors de la campagne de vaccination sur le H1N1 en 2009 ou pas du tout?
Oui, bien sûr, on en a parlé ensemble avec Olivier Véran. Mais chaque...
Vous êtes ministre de la Culture.
Chaque épidémie, j'avais dit il y a très longtemps, en faisant le bilan de cela, c'est qu'il y a une leçon à tirer. C'est que chaque crise pandémique a sa spécificité et qu'il est très difficile de tirer des leçons du passé.
Question de Patrick qui nous appelle de Mennecy. Bonsoir Patrick, la ministre de la Culture vous écoute. Quelle est votre question ?
Bonsoir Monsieur Soto, bonsoir Madame la ministre. Tous mes bons voeux déjà.
Nos mes voeux aussi également.
Allez-y, votre question.
Ma question est simple, je voulais vous parler des gens de l'événementiel dont je fais partie, parce que nous sommes ainsi un peu la culture. Pour exemple, on a construit la Tour Eiffel il y a 100 ans pour faire l'exposition universelle, et du coup, la Tour Eiffel est restée, c'est des gens comme nous, et nous, on passe sous les radars de tout. On nous oublie, on est vraiment des oubliés, on sait qu'il y a du monde, mais nous particulièrement, notre métier passe sous les radars, on n'est ni la culture... On n'est nulle part. En fin de compte, on n'existe pas, alors que pourtant, nous participons activement à la culture. Hein, je vous dis, le Grand Palais, la Tour Eiffel, ces choses-là ont été faites par des gens comme nous, il y a 100 ans.
Donc est-ce que l'événementiel est oublié, en fait, hein, c'est ça votre question?
Complètement, tout à fait, oui. C'est ma question, pourquoi est-ce qu'on est des grands oubliés de l'histoire, quoi, tout simplement.
Alors, vous avez tout à fait raison de dire que l'événementiel est un secteur sinistré, sans doute parce qu'il constitue un des secteurs, on emploie quelquefois le terme de trou dans la raquette, mais qu'il est très difficile d'appréhender. Évidemment, ce n'est pas un secteur culturel au sens strict qui relève du ministère de la Culture, mais je sais aussi très bien ce que ce secteur apporte à la culture. Parce que la culture, avec ses 700 000 emplois, plus de 700 000 emplois directs, c'est plus de 60 000 entreprises, c'est aussi quelque chose qui irrigue la restauration, les bars, quand on sort, on va boire un pot, on sort avoir vu un film ou une pièce de théâtre, on sort avec des copains, là, tout ça est à l'arrêt, l'événementiel fait marcher la culture, accompagne la culture. Alors, néanmoins, même si c'est M. Griset, mon collègue en charge de ce secteur qui s'en occupe, vous avez, dans vos entreprises, eu droit aux mesures transversales de chômage partiel, d'aide spécifique, de prêts garantis par l'État, d'aide d'urgence. Vous avez été accompagné dans ce domaine, ou alors vous n'avez pas...
Pas suffisamment,
pas suffisamment
les professionnels,
peut-être.
Les organisateurs de salons et tout ça sont aussi en
exactement, les salons du livre. On a aidé les salons du livre aussi dans mon ministère. Mais je transmettrai bien entendu à M. Griset, mais je sais qu'il y est très attentif, votre demande.
Roselyne Bachelot, encore deux ou trois questions rapidement parce qu'on est presque au bout. On va changer un tout petit peu de sujet. On a parlé d'une taxe sur les plateformes, hein, Netflix, Amazon, etc. Un décret devait être signé avant la fin janvier, fin décembre 2020, je crois. Est-ce qu'il l'a été? Où en est-on là-dessus sur cette...
Il l'a été, et d'ailleurs je suis vraiment satisfaite de cette négociation qui fait que les grandes plateformes vont participer au financement de la création cinématographique et audiovisuelle française. C'est ce qu'on appelle le décret SMAD.
À hauteur de combien?
Ça va dépendre du choix qu'elles vont faire. Je ne veux pas être trop technique, mais de l'entrée dans la chronologie des médias.
D'accord.
C'est-à-dire le fait de pouvoir disposer des films sur les plateformes, mais disons entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, c'est tout à fait considérable.
Ça concerne qui? Amazon Prime?
Ça concerne Netflix, ça concerne Disney.
Ça va concerner Salto, qui a été lancé conjointement par France Télé, M6 et TF1?
Bien sûr,
aussi.
Oui.
Donc,
ce sera plus facile pour eux de satisfaire, parce qu'il y a tout un ensemble de conditions d'avoir des œuvres... des œuvres françaises dans leur catalogue.
Un livre qui va sortir accuse le politologue Olivier Duhamel d'inceste, Roselyne Bachelot, d'avoir abusé de son beau-fils. Le parquet de Paris a ouvert tout à l'heure une enquête pour viol et agression sexuelle, des crimes qui seraient prescrits. Beaucoup savaient et tout le monde s'est tu, dénonce la sœur de la victime. C'est un homme que vous avez côtoyé dans votre vie professionnelle, moi aussi, hein, je le dis sincèrement. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez appris ça?
D'abord, première chose, je fais ce point, c'est la présomption d'innocence, etc.
C'est important. C'est fondamental.
Je me suis fait plusieurs réflexions. Premier, l'inceste, contrairement à ce qui est dit souvent ou pensé, c'est pas chez des gens qui ont des difficultés financières, qui vivent dans des milieux déculturés. L'inceste, c'est un drame épouvantable qui frappe dans tous les milieux, premièrement. Deuxièmement, les phénomènes d'emprise sont tout à fait considérables, non seulement chez la personne victime de ce crime, mais dans l'ensemble de l'entourage. Et que, finalement, l'effet destructeur de l'inceste est raconté... Je n'ai pas lu complètement le livre de Camille Kouchner, mais j'en ai lu les extraits qui sont parus. C'est un livre poignant. Et cet aspect destructeur des violences sexuelles, et en particulier des violences incestueuses, est décrit avec une force incroyable. Et c'est un enfant sur dix interrogé... dit qu'il a été victime d'inceste. C'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de structurant.
Accepte-t-elle l'idée que ces crimes soient imprescriptibles?
Oui,
soient prescriptibles aujourd'hui.
Je milite pour que ces crimes soient imprescriptibles.
J'ai une toute dernière question qui n'est pas la mienne, celle que vous pose Jean-Claude Subil, Hervé Lyon, Sylvie Badou sur les réseaux sociaux et sur le Facebook d'RTL. Est-ce que vous regrettez votre retour en politique? Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter d'avoir remis le collier de la politique pour retourner au gouvernement, Roselyne Bachelot?
On me pose souvent cette question chez mes amis. « Oh, t'aurais peut-être pas dû y aller. » Mais parce que c'est pas facile, c'est parce que c'est extraordinairement difficile. C'est parce que la France vit une tragédie, que le monde de la culture est dans une souffrance épouvantable, que je me dis si moi, avec ma force, avec ma conviction, je peux être là, mais c'est là que j'ai envie d'être utile. J'ai pas envie d'inaugurer les chrysanthèmes.
On ira dans les festivals cet été, en plein air, dans les salles, tout ça.
On fera tout pour qu'on puisse y aller.
On n'en est pas sûr aujourd'hui.
Mais je pense que, quand même, je suis sûr, on va aller dans les festivals cet été.
Merci.
On a du temps.
Merci Roselyne Bachelot d'être venue ce soir répondre notamment aux questions des auditeurs d'RTL Soir. À vos côtés, un homme de grande culture, Philippe Cavrivière, l'œil de
bonsoir,
Philippe, dans un instant, Philippe. Hein.
Bah oui, j'avais une petite question. Est-ce que c'est ma ministre, Roselyne Bachelot? Est-ce que chroniqueur chez Thomas Soto, c'est de la culture?
Oui, vous êtes, je suis votre ministre.
C'est la patronne,
c'est vrai,
faites attention.
Hein. Parce que j'ai lu mon papier, je ne suis pas certain que ce soit de la culture, hein, ce qui va suivre. En tout cas, c'est formidable. Moi, j'admire Madame Bachelot, c'est formidable de passer des grosses têtes de RTL à ministre. Mais ça donne de faux espoirs. Tout le monde ici ne finira pas ministre.
Non, vous,
Thomas,
par exemple.
Je crois que c'est râpé pour nous.
Vous finirez peut-être après la pub. On verra ça dans un instant. Merci beaucoup. À tout de suite.
RTL Soir.